Le débat africain. Alain Foucault.
Citoyen, citoyen du Sénégal, Modibo Keïta, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. À la force, nous répondons par des forces supérieures. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Comme tous les leaders de l'UPS, vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal.
Le 20 août 1960, la Fédération du Mali n'a pas résisté aux rivalités entre le camp de Léopold Sédar Senghor et celui de Modibo Keïta. Et dans la foulée, l'indépendance du Sénégal est votée cette nuit-là à la hâte par l'Assemblée et prononcée par le poète de 54 ans, Léopold Sédar Senghor, qui va en devenir le chef de l'État quelques semaines plus tard, le 5 septembre 1960 exactement. L'ancien tête de pont de l'Afrique occidentale française, avec ses 196 100 km², entre dans le concert des nations avec des ambitions et des attitudes sans commune mesure avec les faibles ressources économiques d'un pays sahélien. Léopold Sédar Senghor et les élites intellectuelles veulent en faire un modèle sur le plan politique, économique, culturel et social. Le Sénégal, malgré sa petite taille, devient une destination. 60 ans après cette indépendance, que sont les grandes ambitions devenues? Quel bilan dresser de ces 6 décennies de souveraineté internationale? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial 60 ans d'indépendance, réalisé et diffusé en simultané sur RFI et France 24, et repris par une dizaine de télévisions africaines. Nous sommes ce 20 septembre, c'est-à-dire un mois après la proclamation officielle de l'indépendance du Sénégal à Dakar. Le Covid-19 ayant perturbé notre programme puisque nous devions être ici à date. Il faut noter que traditionnellement, le pays célèbre son accession à la souveraineté le 4 avril, date de la proclamation de l'indépendance de l'éphémère Fédération du Mali et du transfert des pouvoirs. Plusieurs invités sur ce plateau bilan. D'abord, Madame Kadine Diaye Touré, vice-présidente et directrice régionale de Cosmos Énergie pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cosmos Énergie est une des majors américains dans le domaine du pétrole. Bonjour Kadine Diaye Touré.
Bonjour Alain.
Second invité de ce plateau, Amissar Fall, la directrice générale du mensuel Intelligence Magazine et présidente fondatrice du club Intelligence Citoyenne, qui traite essentiellement des sujets sur l'éducation, la jeunesse, le leadership féminin. Bonjour Amissar Fall.
Bonjour Alain.
Notre troisième invité est une autre figure panafricaine très connue. Pierre Goudiaby Atepa est le fondateur et créateur du groupe industriel Atepa, architecte de renom qui a réalisé quelques grands palais et édifices au sud du Sahara. Il est avec Cheikh Ngom, un autre architecte sénégalais, l'auteur du siège de la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ici à Dakar. Je n'oublie pas la Porte du Millénaire sur la Corniche, mais également le gigantesque monument de la Renaissance qui surplombe la capitale. Bonjour Pierre Goudiaby.
Bonjour Alain.
Notre quatrième invité est l'artiste de renom Didier Awadi, rappeur engagé et également animateur télé. Bonjour Didier Awadi.
Bonjour.
Alors sur ce plateau, il y a 60 ans, personne n'était né à part Pierre qui est ici. Cette nuit-là, quand on a proclamé l'indépendance, où est-ce que vous étiez Pierre Goudiaby ce soir-là?
Ce soir-là, j'étais à Dakar et nous avons bien sûr bien festoyé. Pour nous, c'était une ère nouvelle, bien sûr.
Mais lorsque vous dites vous étiez là ce soir-là, c'est le soir du 4 avril ou le soir du 20 août 1960, parce que finalement, ici, il y a eu deux indépendances.
Plutôt du 20 août, parce que celui d'avril, j'étais en train de faire mon examen de CEP, et je me souviens encore que j'ai eu à chanter l'hymne national de la Fédération.
Ah, vous savez encore la chanter aujourd'hui ou
oui,
pas?
Non, mais...
Vous l'avez oublié.
Non, je n'ai pas oublié, but next time.
Donc vous faites partie de ceux qui ont chanté la Marseillaise.
Oui, et je fais partie de ceux qui, à l'école, auxquels on apprenait que nos ancêtres étaient des Gaulois. D'ailleurs, moi, c'était tout bizarre parce qu'on me disait qu'il y avait la fête, la cueillette du gui. Bon, c'était un peu bizarre, mais on acceptait, c'était accepté. Bon. Je me souviens également qu'après, quand je suis allez à Ziguinchor, on assistait à une messe, et après, et pendant la messe, le curé a dit, vous allez prendre votre indépendance, mais ça sera une indépendance de la faim. Ce mot-là...
De la faim, famine.
De la faim, de la famine. Mm-hmm. Et je me souviens d'un grand débat qui s'est installé à la maison, mes grands frères qui pensaient que c'était impensable et que c'était pas normal que le curé dise ça. Et je me souviens de ce que ma mère a dit, non, il faut tout faire pour qu'il n'ait pas raison.
C'était un curé sénégalais ?
Non, c'était encore à l'époque coloniale,
c'était un curé français. Alors, vous n'étiez pas là. Est-ce que 60 ans après, il a eu raison, ce curé-là, Khady ?
Je dirais non, parce que le Sénégal, quand même, a beaucoup évolué depuis 60 ans. Comme vous disiez, on n'était pas nés, mais on a vu quand même pas mal de réalisations qui existent encore aujourd'hui. D'autres se sont rajoutées, et donc je pense que en 60 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées, et le Sénégal a fait des avancées notables dans beaucoup de domaines.
Si vous deviez retenir quelque chose en particulier qui marque ces 60 ans, Ami, ce serait quoi ?
Ce serait l'engagement de ma génération. Je pense que j'appartiens à une génération qui a très rapidement pris conscience de sa responsabilité et qui fait que je pense que le chemin a été long pour nos aînés, mais on a été quelque part de dignes héritiers de ces efforts-là. Parce que si vous regardez le dynamisme avec lequel la jeunesse sénégalaise... Bon, on parle du Sénégal, j'aurais pu dire la jeunesse africaine. Disons la jeunesse sénégalaise, on parle du Sénégal, c'est notre pays qui est à l'honneur. Je dirais que la jeunesse sénégalaise a quand même bien joué son rôle. On le voit au niveau de la société civile, on le voit au niveau de la culture, on le voit au niveau de l'éducation, mais on le voit surtout dans le domaine entrepreneurial. On voit beaucoup de start-up naître, les idées sont florissantes, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, il y a un engagement, mais est-ce qu'il y a l'accompagnement nécessaire ?
On va en parler, voilà. Puisqu'on va essayer de balayer l'ensemble des domaines. Mais j'ai envie, avant qu'on entre là-dedans, de poser la question à Didier Awadi, qui est dans le domaine de la culture. Lorsqu'on vous parle de 60 ans, qu'est-ce que ça vous fait ? Les choses ont avancé, comme le disait à l'instant Khady, ou bien c'est lent ?
Pour moi, c'est lent et pour moi, c'est il y a 60 ans, il y a eu un très mauvais départ. Donc, je m'explique. Elle a parlé de responsabilités qu'une certaine génération assume, mais je pense qu'il y a une génération qui a délégué ses responsabilités sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire. Et aujourd'hui, on est encore dans cette logique de déléguer notre souveraineté. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu un très mauvais départ avec, pour moi, un manque d'ambition.
Mais est-ce qu'ils avaient le choix à ce moment précis ?
Pays anglophone.
Lorsqu'on leur a dit vous prenez l'indépendance, on en connaît qui n'en voulaient d'ailleurs pas.
La plupart
ils ne savaient pas comment ils allaient construire. On leur parlait déjà de l'indépendance de la famine.
Et d'ailleurs, il y a des non-dits dans notre histoire ici. Cette histoire de où était Senghor et où étaient, en tout cas, les patrons, où est-ce qu'ils étaient ? Puisque c'est Valdiodio Ndiaye dont on ne parle pas assez. Mamadou Dia, je le vois ici. Mais il y a des non-dits. Et je pense qu'il y a des questions qu'on doit régler. La question de la souveraineté n'a pas été réglée, à mon sens. Hein.
Mais 60 ans après, vous avez le sentiment...
Je ne connais pas, peut-être Tonton Pierre connaît mieux la situation de l'époque, mais à mon avis, il y a des questions fondamentales sur lesquelles on n'a pas assumé nos responsabilités.
Mais lorsqu'on entend ça 60 ans après, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que l'on se défausse un peu sur les autres? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, là je m'adresse à Khady qui travaille par exemple dans des grosses structures internationales, qui a été dans des banques importantes, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on se défausse un peu en cherchant à chaque fois à dire on n'est pas indépendant, le sommes-nous vraiment?
Oui. Ben, écoute Alain, moi je voulais poser la question à Didier en lui demandant de quelle souveraineté il parle, parce qu'il faut être précis. Et moi dans mon domaine d'activité, je peux dire qu'on connaît et on a pu observer des avancées notables. J'ai eu à évoluer dans la finance, je suis aujourd'hui dans le domaine du pétrole et il y a des avancées qui sont là. Lorsqu'on regarde la période après les indépendances, bon disons de 1960 à peu près 94, on avait une croissance qui était un peu en dents de scie. 94, on a eu la dévaluation. La croissance est repartie à la hausse grâce aux politiques qui ont accompagné donc le Sénégal à mettre en place un cadre macroéconomique stable. Ensuite, on est rentré dans une période entre 2005 et 2014 à peu près dans une période d'inflexion de cette croissance-là à cause de chocs macroéconomiques, à cause de la crise des subprimes, etc. Et depuis 2014, on est à nouveau dans une phase de croissance grâce à la mise en œuvre notamment du PSE, qui, d'un point de vue économique, du plan Sénégal émergent, qui a apporté des résultats concrets. On est passé d'une moyenne d'à peu près 2,5% de croissance à une croissance soutenue sur environ 4 ans de plus de 6%. Donc ça, ce sont des faits qui montrent qu'on a évolué.
Oui, mais lorsqu'il parle de... Je me fais un peu l'interprète de Didier, même s'il n'en a pas besoin. Lorsqu'il parle de souveraineté, est-ce qu'il existe encore le poids de l'ancien colonisateur sur les décisions que l'on peut prendre dans nos pays?
Je ne vais pas m'avancer en disant oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est en face d'États qui sont complètement décomplexés, qui aujourd'hui s'adressent et travaillent avec des partenaires divers et variés. On n'a pas que l'ancien colonisateur, on a aujourd'hui des Chinois, on a des Turcs, on a des Indiens, donc on a des partenaires qui sont aujourd'hui diversifiés, qui, à mon sens, nous permettent d'avoir des discussions décomplexées avec nos partenaires et avec la France, puisque c'est de la France qu'on parle.
Pierre, vous partagez le point de vue de Kadhi?
Mais je ne partage pas du tout le point de vue de ma fille, pour plusieurs raisons. Mais avant ça, puisque nous parlons du Sénégal, je voudrais me réjouir du sens de la responsabilité des Sénégalais au début des indépendances et jusqu'à présent. Nous sommes par exemple, et ça je pense que nous le devons à nos pères fondateurs, nous sommes un des rares pays qui n'ait jamais connu de coup d'État.
L'unique.
Et c'est très important.
Et on va en parler dans la partie
politique. Il y a également que moi, je dis toujours que je suis très fier d'appartenir à un peuple qui a des ethnies diverses, des religions diverses. C'est extrêmement important. Le Sénégal, pour le rappeler, avec 6 ou 10% de chrétiens seulement, a eu un président chrétien, catholique, pratiquant.
Mais est-ce que c'est encore faisable aujourd'hui?
Oui, tout à fait.
Voilà. En toute honnêteté.
En toute honnêteté, c'est encore faisable. Et je m'en réjouis. Je pense que ça, c'est les fondamentaux du Sénégal qui sont extrêmement importants. Mais pour revenir à ce qu'a dit ma fille, je ne suis pas d'accord, mais alors pas du tout, et je pense qu'on reviendra là-dessus.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
Je ne suis pas d'accord parce que j'ai le sentiment que d'abord, et je le dis tout le temps, je l'ai dit dans un livre, je pense que le poids de la France est encore trop important chez nous.
Dans quel domaine?
Dans tous les domaines, d'abord parce que nous parlons français. Et ceux qui me connaissent savent que, attends...
Les Canadiens parlent français aussi.
Oui, mais ils parlent anglais également. Et c'est là où je voulais en venir. J'estime que, et je le dis tout le temps, hein, je l'ai dit devant les francophones, j'ai rien contre, et je suis sûr que c'est pas le président Emmanuel Macron qui va me contredire, même les Français parlent anglais. Si nous souhaitons développer ce pays-là, qui est un carrefour, et nous souhaitons qu'il soit, demain, on en parlera, un carrefour industriel, il faudrait que nous parlions des langues qui puissent nous permettre de dialoguer, qui puissent nous permettre de travailler avec tout le monde.
Mais dans les langues, de plus en plus de Sénégalais parlent l'anglais. Quand vous voyagez à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Angleterre, vous rencontrez beaucoup de Sénégalais.
Ça ne suffit pas justement parce que je souhaite que ce soit institutionnalisé dans les pays francophones.
Mais ce n'est pas la France qui l'empêche, en tout cas.
Non, ce n'est pas la France. Bon, là, vous avez raison. Mais c'est là où je lance toujours un appel à nos dirigeants. Tant que nous ne parlerons que français comme langue officielle, eh bien, nous serons derrière la France.
Alors, je sais que Didier, sa bataille est dans le sens du CFA. C'est bien des acquis des
ça va au-delà du CFA, qui est une monnaie que nous ne gérons pas. Donc, si tu ne gères pas entièrement, donc tu n'as pas de souveraineté sur ta monnaie, quel que soit ton niveau de complexe ou de non-complexe. Ceci étant dit, sur nos armées, pourquoi on est obligé aujourd'hui de faire appel aux armées étrangères? C'est qu'on n'a pas de souveraineté sur notre sécurité. Aujourd'hui, nos data...
Et nos voisins, pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas?
Nos data, notre information. Mais nous ne les gérons pas. C'est l'étranger qui le gère.
Je vois la réaction à l'instant de l'ami qui n'a pas l'air
dangereux. Aujourd'hui, celui qui sait comment tu penses, comment tu consommes, va dicter ta vie. Et c'est parce que nous sommes décomplexés que nous arrivons à analyser cette société.
Ami.
En fait, je partage un peu les trois points de vue. Enfin, je partage dans un sens. Je veux dire, quand on parle aujourd'hui de souveraineté, je rejoins un peu Radhi quand même. Peut-être les femmes sont plus positives, mais je rejoins un peu. Je rejoins un peu Radhi quand même, qui a eu énormément d'efforts qui ont été faits au niveau du taux de croissance, par exemple. C'est des choses à saluer. Effectivement, je pense que il y a en Afrique des États décomplexés. On peut mieux faire.
Même si certains leaders ne sont pas décomplexés, il faut le reconnaître.
Voilà, mais il y a aussi que dans le monde, avec la mondialisation, pour moi, la souveraineté totale n'existe nulle part. Je pense aujourd'hui, on regarde la dette au niveau de la France, le déficit, qui est quand même à, je crois, 200 milliards d'euros. On se demande à qui appartient cette dette, finalement. Est-ce que la France est aussi souveraine que ça? La situation économique fait que beaucoup de pays n'ont pas vraiment la souveraineté qu'ils prétendent avoir.
Oui, mais dans le cas précis dont parle Didier... Il veut évoquer le fait que certains des chefs d'État africains continuent encore d'aller faire allégeance à Paris ou d'être choisis par Paris.
Justement, j'en viens. Je pense que dire ça, c'est comme vouloir dire que les peuples africains, finalement, sont des marionnettes. Quand on a voulu l'alternance en 2000, le peuple est sorti et a élu son président.
Tout à fait.
Quand les élections de 2012 au Sénégal montrent que le peuple, quand même, a su faire son choix. Quand on regarde l'engagement de la jeunesse aujourd'hui, je pense que c'est un peu réduire à néant tous ces efforts que de vouloir dire que la France a encore la mainmise sur qui est-ce qu'on choisit d'élire. Effectivement, il y a l'influence économique, mais ça, je pense que c'est beaucoup plus structurel. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un combat à mener là-dedans, un combat qui permettrait aujourd'hui de régulariser, de mettre mieux en valeur les intérêts du Sénégal lorsqu'il s'agit de traités, de commerce, etc. Je pense que ça, ce sont des choses qu'on peut débattre. Mais quant à la souveraineté, ce qu'il faut, c'est justement permettre à la jeunesse. Pour moi, le défi là où c'est vraiment permettre à la jeunesse de faire en sorte que leur potentiel ne soit pas exporté et qu'il reste en Afrique pour servir. Parce que ce qui crée tous ces problèmes aujourd'hui, c'est qu'on dépend beaucoup de l'extérieur pour former notre jeunesse. Et tant qu'on n'aura pas l'engagement, la détermination de faire en sorte que les ressources restent ici, on continuera à exporter autant les ressources
humaines. Une stratégie dans l'éducation, une stratégie dans la manière de former les ressources humaines. On va terminer sur cet aspect en donnant la parole à nouveau à Didier. Qu'il précise sa pensée, parce que je l'ai vu très pensif, l'air de dire « vous ne m'avez pas compris » sur la question de la souveraineté, en deux mots.
Oui, non, parce que ce qu'elle dit est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec certains présidents, ont ouvert d'autres univers d'échange. Et ça, c'est très bien. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait est mauvais. Je ne dis pas que les pères fondateurs avaient le choix. Mais je dis qu'ils ont, peut-être d'une manière un peu provocatrice, ils ont manqué de cette ambition qu'ont eu les Anglo-Saxons en Afrique. En
tout cas, ce qui vient. Bon, ils étaient choisis pour ça dans le même temps. Hein.
Et souvent, ils avaient été choisis et ils ont été la voix de leur maître. Et remarquez que je n'ai jamais pourtant dit depuis tout à l'heure le mot France. Parce qu'aujourd'hui, il y a un complexe francophone que je n'ai pas. Parce que je parle cette langue qui est mon héritage, mon trésor de guerre, mais je pense africain. Donc il faut que ce soit clair. Donc je dis, le CFA là, ce n'est pas notre monnaie. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Et ce débat-là.
Mais c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas à la France de décider.
En tout cas, les peuples ont déjà montré une voie claire. Et on nous dit, vous n'êtes pas assez mûrs pour ça. C'est insultant. Et tu vois des intellectuels très sérieux qui te disent, oui, mais on ne va jamais y arriver. Mais pourquoi le Cap-Vert y arrive?
Je vois la banquière qui a envie de réagir à ça. Et je me sens mal.
Je la titille, mais c'est. J'ai envie de dire que le CFA est notre monnaie. Le CFA, il ne faut pas juste penser au sigle, il faut penser au mécanisme derrière le CFA. Et peut-être que nous avons une vue des choses qui est peut-être plus positive, mais moi je me dis aujourd'hui que cette monnaie nous a sauvés de chocs, notamment en 2008 pendant la crise des subprimes. Le fait que notre région ait été protégée par les mécanismes qui sont mis en place ont fait qu'aujourd'hui, aucune banque n'a perdu de l'argent dans cette crise-là. Aucun ménage n'en a perdu, tout simplement parce que on n'était pas exposé. Donc, pour moi, c'est vrai, il y a aujourd'hui peut-être une réflexion à mener sur ce que le CFA doit devenir. Et ça, je pense que les chefs d'État de notre région l'ont compris, puisqu'aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont faites à ce niveau-là. Est-ce que ce CFA-là doit rester ce qu'il est? Est-ce qu'il doit évoluer vers autre chose? Mais je refuse de dire que le CFA n'est pas notre monnaie.
Bien. Alors, on va sortir de ce débat qui est très passionnel. Et là, c'est la banquière qui vient de parler.
L'ancienne banquière. Mais banquière dans l'âme.
Voilà. Ça sent. Comment expliquer que le Sénégal soit finalement le seul pays francophone d'Afrique à avoir eu cette évolution politique, à avoir eu cette constance avec des alternances, à n'avoir pas connu de coup d'État, Pierre?
Mais encore une fois, je pense que nous avons quand même eu une grande chance. Les pères fondateurs de ce pays-là ont été des sages. Il y a également que tu as affaire à un peuple qui est mûr. Le Sénégalais, il peut avoir ses défauts, mais quand il faut réfléchir, quand il faut faire les choix, il est présent. Et je pense que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que oui, et je m'en réjouis, le Sénégal n'est pas un pays comme les autres. Et c'est là où je me dis que oui, c'est peut-être un des premiers pays qui puisse être développé dans la sous-région. Et je reviendrai là-dessus.
Alors, quand on regarde, les présidents se sont succédés, il n'y a jamais eu de drame. Est-ce qu'on le doit seulement à la sagesse de ses pères fondateurs? Est-ce qu'on le doit au fait qu'ici, il n'y a pas, on va dire, de division tribale forte, ami?
Je pense qu'on le doit à plusieurs facteurs. La dimension religieuse n'est pas exclue. Parce qu'un pays où la religion est assez présente, il y a des confréries qui ont une certaine autorité sur les populations. Et je pense qu'ils ont quand même ce rôle de médiation, ils jouent ce rôle de repère. Et je pense qu'ils ont quand même participé à protéger cet esprit. Il y a également le fait que dans les écoles, quand même, on a très tôt su prôner les valeurs patriotiques au point où à chaque fois qu'il y a un débat, aussi tendu qu'il soit, on n'oublie jamais, ça a été le cas durant les élections, de rappeler aux gens, attention, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et c'est ça la mentalité aujourd'hui au Sénégal, c'est-à-dire on peut avoir des débats passionnés, on peut manifester beaucoup de colère, mais en fin de compte, on sait qu'on est un seul peuple, un but, une foi. Et c'est ça qui fait vibrer cette nation.
Mais là, on voit aussi quand même une montée du radicalisme dans le pays. On voit arriver dans des mosquées, on va dire, des prêcheurs qui n'étaient pas jusque-là sur le pays. Est-ce qu'il n'y a pas une menace, justement, sur cette religion que l'on présentait comme une religion plutôt pacifique, Didier Awadi?
La menace, elle est là. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui y pensent. Mais c'est vrai que, comme elle a dit, les religions sénégalaises sont très tolérantes et dans leur philosophie ne permettent pas ce radicalisme. Donc culturellement, ça passe.
Oui, mais on voit quand même une montée du radicalisme.
Oui, parce que forcément, on est entouré par ça. Et c'est pour ça que je reviens toujours à construire ce nouveau Sénégalais qui est conscient des enjeux géopolitiques. Et quand je parle de souveraineté, c'est tout ça qui revient. Si on n'a pas d'armée forte que nous contrôlons, je pense qu'il faut repenser nos modèles. Aujourd'hui, le service civique, patriotique, il faut le repenser. On ne peut pas être entouré de radicalisme et se dire non, seulement les marabouts avec leur discours, ça va partir. Il faut qu'on soit prêt à tout. Aujourd'hui, parce que c'est là. À Bamako, ils pensaient que c'était loin. En quelques mois, aujourd'hui, ils sont à côté de Ségou.
Je rejoins Didier, mais au-delà de l'aspect militaire, je pense que ce qui crée cette tension, ce qui crée cette menace, c'est surtout le manque de perspective d'avenir pour la jeunesse. Et c'est là, à mon avis, où on doit également lutter pour nous assurer que ces jeunes, leur compétence individuelle sera exploitée quelque part dans une société qui est en quête de progrès. Beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent sans emploi, qui se retrouvent sans perspective, finissent par devenir vulnérables à ces messages de radicalisation. On a une jeunesse qui est là, mais si les djihadistes réussissent à se positionner comme intermédiaires entre la jeunesse et l'État, quelque part, c'est là où ça devient dangereux. Et en 2020, franchement, si être musulman aujourd'hui, dans certains endroits du monde, c'est comparé à rejoindre une secte terroriste, c'est là où il y a un problème.
C'était quand même impressionnant parce que lorsqu'on regarde d'ailleurs, on se dit, les femmes que vous êtes, les femmes qui êtes intellectuelles, qui voyageaient dans le monde, qui avaient des fonctions importantes, que pour vous, la religion est plutôt un frein. Est-ce que c'est quelque chose qui permet l'épanouissement de la femme?
Absolument, absolument. La religion n'est pas du tout un frein. Je pense qu'on peut être épanoui dans sa religion, dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, sans aucun problème.
Mais vous savez très bien que lorsque l'on regarde, d'ailleurs, tout de suite la caricature, c'est l'imam qui ne permet pas que l'on mette un vêtement un peu, on va dire, un peu dénudé, que l'on se coiffe différemment. Est-ce que c'est une caricature ou c'est une réalité?
Écoutez, pour moi,
le poids de la tradition, le poids de la religion.
Pour moi, ça, c'est une caricature. C'est une question aussi de niveau intellectuel. C'est une question de compréhension de sa religion. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir plutôt dans la formation des jeunes, mais aussi des imams, de manière à ce qu'ils puissent inculquer vraiment des messages justes, des messages de tolérance adressés aux hommes comme aux femmes. Et pour moi, l'islam, c'est une religion de tolérance, c'est une religion d'ouverture, et vraiment, on peut pleinement vivre sa foi et sa religion tout en travaillant et en étant épanoui.
Oui, rapidement, Didier.
Que les zones où il y a eu ce radicalisme, parce que pour moi, je n'associe pas ça à l'islam. Hein. Pour moi, c'est...
Mais c'est par l'islam, c'est par le mot islam que cela arrive, généralement.
Oui, mais c'est pas nous. Ça, c'est un concept occidental. Je le récuse. Je dis ce radicalisme, il s'installe. Si vous allez au Nigeria, dans les zones où l'État a failli. Au Mali, là où l'État a failli. Et c'est une très vaste zone. Au Niger, là où l'État a failli, eh bien, ces groupes se sont installés. Donc c'est là que notre projet de développement doit être repensé. Quand je dis qu'il faut repenser tout à la base et révolutionner, c'est ça. On doit repenser notre projet. C'est quoi le projet ?
Je crois que Didier a parfaitement raison. Il a parfaitement raison et c'est là où je voulais intervenir. Moi, je pense qu'il faut que nous revoyons les fondamentaux. Amil a dit tout à l'heure, et c'est passé très vite, c'est la pauvreté qui est à la base de tout ça. Et là où je pense que nous avons failli, c'est que depuis 60 ans, on nous a donné des médicaments qui n'ont pas fonctionné, notamment le FMI à la Banque mondiale, et la Banque mondiale pour ne pas les nommer. Et on continue à nous donner les mêmes médicaments.
Les amis de Khadi.
Oui, les amis de Khadi, effectivement. Et je reviendrai sur Khadi parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec ma fille. Donc, je pense qu'il faut reprendre les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Nous sommes, si je prends le Sénégal, nous ne sommes que 17 millions. Nous avons des phosphates, nous avons de l'or. Et pour parler d'or, est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas une seule raffinerie d'or au Sénégal? Nous avons du minerai de fer, nous avons du zircon, nous avons du lithium, nous avons pratiquement tout. Nous sommes 17 millions et nous n'arrivons pas à gérer ça pour extirper la pauvreté. C'est ça le fondamental. Et là, nous avons des solutions aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand un pays comme le Sénégal découvre du gaz, parle même pas du pétrole, il doit revoir tous ses fondamentaux. Et je vais insister là-dessus, parce qu'il y a des études que nous avons faites. Quand vous avez, dans un rayon de 960 km de Dakar, 27 milliards de tonnes de minerais de fer, et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez du gaz au Sénégal, si vous prenez ces 27 milliards de tonnes de minerais de fer, disons à 60%, si vous les transformez avec le gaz du Sénégal, vous parlez de plus de 7, 8 trillions de dollars. C'est ça qui va nous faire sortir du sous-développement. Et depuis que je le dis, personne n'est venu me contredire.
Pourtant, vous avez été avec tous ces présidents qui se sont succédés.
Oui, tout à fait, tout à fait.
On est un peu surpris parce que vous êtes aussi comptable de ce qui
s'est passé. Je le dis toujours, nous sommes tous comptables. Nous sommes tous comptables.
Justement, on parle d'économie. Quand on parle du Sénégal, généralement, on pense filière arachidière, qui se porte très mal, il faut le reconnaître. C'est quoi la solution? Est-ce les minéraux dont parle Pierre, surtout que l'on a découvert du pétrole aujourd'hui? Et là, je m'adresse à Khadi qui se retrouve dans le pétrole aujourd'hui.
mais avant de parler de ça, peut-être je vais revenir sur l'intervention de Didier. J'ai dit enfin, je suis d'accord avec lui, parce qu'il faut quand même noter qu'aujourd'hui au Sénégal, 45% de la population a moins de 15 ans. Donc, on a une population...
45%.
Oui, c'est une population, 42% à peu près. C'est une population qui est très jeune. Cette population-là, il faut l'éduquer. Ces jeunes, il faut faire en sorte qu'ils aient envie de rester chez eux et non pas risquer leur vie pour aller en Europe en pensant que c'est mieux là-bas. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Le capital humain, vraiment, c'est là où les investissements doivent se faire. Et les perspectives du Sénégal en matière de gaz, dont on vient d'en parler, sont très bonnes. Le Sénégal va devenir bientôt un hub gazier, et pas des moindres. Un hub gazier, des découvertes vraiment phénoménales ont été faites au large des côtes sénégalaises, et ça va transformer l'économie du Sénégal. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut penser à ça, en formant ces jeunes-là, pour qu'il y ait une adéquation avec les besoins que toutes ces perspectives-là vont offrir, et la formation des jeunes. Parce qu'un des gros problèmes aujourd'hui qu'on a, c'est le manque de ressources humaines qualifiées. Il y en a, il y a des initiatives qui sont en cours, notamment avec la création de l'INPG, l'Institut du pétrole et du gaz. Certains jeunes vont être formés là-bas, etc. Mais il faut vraiment penser à une stratégie globale qui va permettre à nos jeunes d'être formés et de pouvoir demain être en face de sociétés
qui pouvoir négocier les contrats de façon moins...
etc. Donc ça, vraiment, l'investissement dans le capital humain, il est primordial.
Lorsqu'on entend pétrole, on a le sentiment que, mais c'est surtout en Afrique, qu'il y a une malédiction du pétrole. Quand on regarde les pays qui ont eu le pétrole en Afrique, il y a toujours des guerres dans ce pays-là, avec des divisions, avec une malgouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas cette menace sur le Sénégal, ami? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas de perdre la stabilité que l'on a connue dans ce pays à cause du pétrole, par exemple, ou à cause du gaz?
Je pense que tant que la démocratie est installée, tant que le peuple comprend, tant qu'il y a une transparence dans la gestion de ses ressources, nous n'aurons pas de problème. Je pense que le problème ne viendra pas du pétrole, sauf s'il y a une ingérence extérieure qu'on ne peut pas maîtriser, etc., comme ça s'est passé dans d'autres pays. Oui, mais je pense sincèrement que j'ai confiance en notre peuple. On est un peuple quand même on a vu ce qui s'est passé dans les autres pays.
Oui, mais les autres aussi avaient vu.
Je touche du bois, mais on n'a jamais eu un coup d'État, par exemple, alors que pratiquement tous nos pays voisins ont eu à passer par ça, parce qu'on veut préserver quelque part cette stabilité. On sait que c'est notre plus grande richesse. Nous ne sommes pas un pays très riche, donc on sait qu'aujourd'hui, les gens, s'ils viennent investir au Sénégal, c'est parce qu'il y a une sécurité, une stabilité. On sait que ça, c'est une ressource rare aujourd'hui en Afrique. On veut préserver ça. Par contre, je dis que là d'où viendra l'instabilité, c'est si, comme Hadi l'a dit tout de suite, 45% de jeunes se retrouvent dans une précarité. Là, il y a une menace. Parce que là, ces jeunes ne supporteront pas de voir tout leur potentiel aplati comme ça du jour au lendemain, parce qu'il n'y aura pas de perspective. Je pense que c'est très important qu'on saisisse les opportunités.
L'urgence dans l'éducation, dans la formation.
Le numérique. Et surtout, prendre en compte la dimension transversale de l'éducation et préparer à ces nouveaux métiers verts. Que le développement durable, les objectifs de développement durable aujourd'hui soient une priorité dans la politique générale. Je pense qu'il faut reconnaître quand même qu'au Sénégal, il y a le gouvernement, même si on peut critiquer parfois, quand même prise en compte le défi d'équité qu'il y a. Aujourd'hui, on peut regarder notre pays ces dernières années et reconnaître qu'au niveau de l'équité territoriale, il y a eu des progrès qui ont été faits. On peut reconnaître également au niveau de l'équité intergénérationnelle, au niveau de l'équité sociale, avec la bourse familiale, etc. Je ne prétends pas être une avocate du gouvernement. Attention.
Didier qui se tortillait sur son fauteuil.
Mais quand même, quand on est sur RFI, j'ai envie qu'on montre quand même que dans notre pays, il y a eu des choses positives qui ont été réalisées.
Vous êtes sur RFI, sur France 24,
tout le monde est
montre.
En train de nous suivre, donc disons quand même la vérité. Au Sénégal, il y a eu des progrès, même s'il reste encore beaucoup à faire.
Non, mais je ne comprends pas pourquoi, quand vous parlez, quand vous avez des idées d'opposition, vous me regardez. Être objectif, aimer son pays, c'est dire, par rapport à la question du pétrole et du gaz, c'est mettre le doigt. C'est-à-dire, si on veut ne pas avoir de guerre, si on veut ne pas avoir de manipulation de population, il faut que tout soit transparent dès le début. Une fois qu'il y aura de la transparence dans tous les contrats, dans la gestion de tout, il n'y aura jamais de problème.
Et dans l'utilisation des revenus.
Et aussi, si ce pétrole et ce gaz permettent justement de transformer et de passer d'une ère artisanale à industrielle. Et c'est là que j'applaudis les idées de tonton Pierre, parce que je sais qu'il est là-dessus depuis très longtemps, il travaille dessus. Et aujourd'hui,
je savais pas que Pierre était dans le pétrole aussi.
Il faut qu'on passe.
Dans les minerais, oui.
Je pense qu'on n'utilise pas assez tonton Pierre.
Mais ça, tout ça ne sera possible que si nous avons un cadre clair, transparent. Aujourd'hui, je sais.
Et c'est votre rôle, parce qu'il y a une vraie société civile ici.
Il y a des efforts regardants. Qui sont faits. Mm-hmm. Je ne dis pas que ces efforts ne sont pas faits, mm-hmm. mais aujourd'hui, chacun des citoyens doit prendre sa responsabilité de mettre son nez dedans pour que personne ne vienne de l'extérieur mettre son nez dans notre.
C'est votre rôle aujourd'hui, quand je regarde la société civile ici.
Ce rôle, mm-hmm. on va le jouer à fond.
Jusqu'au
parce
bout.
Que c'est pour notre avenir.
Voilà. Oui, Pierre.
Je pense que le Sénégal a aujourd'hui toutes les chances et tous les moyens de se développer. Elle a parlé de l'emploi avec le gaz et le pétrole et les ressources minières. Nous pouvons créer le tout emploi en moins d'une décennie. C'est possible. Mais, encore une fois, il faut revoir les fondamentaux. Là où je ne suis pas d'accord avec ma fille ici,
c'est qu'il
faut qu'on change quand même, il faut changer la manière dont nous percevons la coopération avec les firmes internationales. Le transfert de technologie doit être au cœur de notre action. Le pétrole et le gaz, je dis aux gens, écoutez, nous avons une chance extraordinaire. J'ai dit aux jeunes femmes, votre make-up là, c'est du pétrole. Votre tousungle là, c'est du pétrole. La brosse à dents que vous utilisez le matin, c'est du pétrole. Nous avons les moyens aujourd'hui, Alain, de faire ce que Senghor voulait faire déjà avec le Shah d'Iran, pour prendre cet exemple-là. Il voulait créer Cœur Farah Pahlavi. Je connais bien le projet parce que j'en étais l'architecte. On devait faire venir du pétrole d'Iran pour faire de la pétrochimie. Il y a 40 ans, Senghor avait envoyé des ingénieurs, des jeunes étudiants en Algérie pour apprendre à faire ça. Ils sont rentrés, ils sont encore là, ils sont vieux maintenant.
Mmh. Maintenant, il y a une nouvelle génération.
Il y a une nouvelle génération et là où elle a raison. Oui, le gouvernement, quand même, de temps en temps, il faut les applaudir. C'est pas parce que c'est moi qui fais ça encore une fois. Mais il y a l'IMPG qui va former
d'un opposant, ça surprend un petit peu.
Au-delà, non, je suis pas opposant.
Oh, moi, vous étiez candidat, Pierre.
Oui, mais être candidat ne veut pas dire être opposant. Non, je m'oppose à des choses qui sont pas normales. Voilà. Mais surtout, moi, je m'oppose en donnant des solutions. C'est quand les gens n'écoutent pas que je m'énerve.
Que vous vous énervez. Et vous vous énervez pas qu'un peu. Je voudrais que là-dessus, parce que vous avez mis le doigt sur le principal débat que l'on rencontre lorsqu'on voit les intellectuels africains en général et sénégalais en particulier. Le fait que l'on puisse enfin faire travailler les gens dans ces domaines, est-ce que ça fait partie des projets aujourd'hui, Khadi, vous qui êtes dans le pétrole et qui travaillez pour une firme étrangère que l'on regarde en se disant ça y est, ils viennent encore nous piquer notre richesse.
Non.
Est-ce que aujourd'hui il y a possibilité de transfert des technologies?
Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, donc je ne vais pas revenir sur tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a une loi sur le contenu local qui a été votée. Et aujourd'hui, c'est une obligation pour des firmes comme les nôtres qui travaillent dans des domaines techniques pointus de transférer les compétences et de permettre à la jeunesse et aux cadres sénégalais de prendre la relève.
Ça se matérialise comment ?
Mais c'est une série, bon, enfin, c'est une loi qui nous oblige à former des jeunes, qui nous oblige à leur donner les moyens d'être formés, qui nous oblige à les financer en cas de besoin, qui nous oblige aussi à contracter des contrats avec des entreprises locales pour les besoins de nos opérations. Donc c'est une loi qui est quand même assez complète et qui est contraignante pour les entreprises qui viennent investir dans des domaines techniques pointus de manière à ce que les compétences soient transférées. Donc vraiment, à ce niveau-là, aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous assurer que le cadre légal existe. Maintenant, d'un point de vue...
Les contrats sont bons. On n'a pas fait comme dans les années 60, lorsque on a découvert le pétrole dans certains pays, comme le Gabon, comme le Congo, où il restait juste la portion.
Il y a certainement beaucoup de choses à rectifier.
Bon, moi, je suis en train de parler du contenu local. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de factuel. Voilà. C'est une loi qui existe. Maintenant, au niveau de l'application de cette loi-là, il va falloir donner le temps aux entreprises qui évoluent dans ces domaines-là de pouvoir transférer progressivement les compétences. Mais la loi est là. Donc déjà, je pense que c'est un bon début et ça va nous permettre de transférer les compétences et ça va permettre à notre jeunesse de prendre la relève.
Et on espère le plein emploi. Alors, le Sénégal est devenu une destination assez rapidement alors qu'elle n'avait pas beaucoup de richesses. Il n'y avait pas de raison que ce pays sahélien devienne le pays connu dans le monde. Léopold Sédar Senghor, là-dessus, a beaucoup travaillé en mettant l'art devant, la culture devant. 60 ans après, est-ce encore le cas, Didier Awadi? Est-ce que le Sénégal brille encore à l'international dans ce domaine ou bien c'est passé au second plan?
C'est vrai que Senghor avait une politique culturelle. Je pense que les autres, ce n'est pas une priorité pour eux, mais ils font attention. Aujourd'hui, si le Sénégal brille encore un peu, c'est la qualité de ses acteurs et de ses ambassadeurs culturels. Si vous prenez des gens comme Youssoundou, des Maramal, des Ismaël Lo, des gens comme ça pour parler du secteur de la musique dans lequel je suis, on a de gros ambassadeurs qui continuent de faire briller le pays. Et nous autres, aujourd'hui, nous nous mettons ensemble pour travailler, par exemple, sur une loi qu'on a aidée dans sa rédaction sur les droits d'auteur, les droits voisins, la copie privée et tout ça, pour mettre un cadre qui va nous permettre de passer à une autre étape.
Parce que c'est le pays où ça marche le mieux, hein, parce que la question des droits d'auteur dans la plupart des pays.
Oui, mais c'est pour arriver à une économie de la culture. Parce que très vite, on veut dire culture égale divertissement. Nous, nous sommes dans l'ère de l'économie de la culture. Et nous savons qu'il y a là une niche sérieuse. Et si les autorités nous écoutent, en associant culture et tourisme, on peut vraiment, c'est ce semblant de présence sénégalaise, on peut le décupler. On peut multiplier par 10 en associant ces deux et en pensant économie de la culture.
Alors, on sait que la femme sénégalaise aujourd'hui à l'international s'est imposée. Comment l'expliquer qu'il y ait ce leadership féminin qui, a priori, ne devait pas venir d'ici?
Pourquoi?
Parce que là, on regardait en se disant, là-bas, il y a le poids de la tradition, il y a le poids de la polygamie. Je reprends les poncifs traditionnels que vous connaissez.
C'est le débat que vous posez, Alain.
Oui, allez-y. Alors, comment l'expliquer? Comment expliquer que vous, par exemple, et dans votre cas, il y en a pas mal, on trouve des chefs d'entreprise, qu'à l'Assemblée nationale, il y a autant de femmes. Qu'est-ce qu'il explique finalement, ce leadership féminin?
Alors, est-ce que tu veux répondre d'abord?
Je peux répondre, je peux me jeter à l'eau. Je pense qu'on a eu des devancières. Et l'histoire du Sénégal est jalonnée vraiment par la présence de grandes dames à tous les niveaux. Donc au niveau politique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il y en a eu à tous les niveaux.
Oui, mais elles sont restées assez discrètes.
Elles sont restées assez discrètes, mais il y en a eu. Donc je pense que des femmes au Sénégal, comme Ami et moi, il y en a beaucoup. Et ces femmes-là, j'aimerais qu'elles puissent sortir un peu du bois, sortir un peu de leur zone de confiance et se faire connaître. Et vous verrez qu'il y en a encore beaucoup plus que ce que vous imaginez. Mais je pense que c'est pas assez. Je pense que c'est pas assez. Moi, j'aimerais voir une présence constante des femmes à des niveaux de décision, à la tête de grandes institutions. J'aimerais voir la présence de femmes à la tête.
Candidate à la présidence.
Pourquoi pas, mais voilà. À la tête de ministères régaliens, etc., etc., mais de manière constante. Mais ce qui explique vraiment cette présence de femmes sénégalaises à de haut niveau, je pense, c'est l'histoire du Sénégal et les opportunités qu'elles ont eues tout au long de ces 60 années.
Je dois dire d'ailleurs, pour une fois...
Vous êtes d'accord?
C'est la deuxième fois où vous êtes d'accord.
Ça fait deux.
Tonton, c'est pas mal.
Il y a quand même, il faut reconnaître que le gouvernement a mis en place un instrument qui, à mon avis, commence à bien marcher. C'est la DER, la fameuse DER pour l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Voilà une initiative qu'il me semble devrait pouvoir être répétée dans les autres pays africains. Voilà un instrument qui a été fait par le gouvernement, par le président, pour ne pas le nommer, parce qu'ici tout ce
Mais Pierre
dit,
a changé, hein.
C'est le président. Non, il n'a pas changé. Il veut simplement dire quand c'est bien, dire oui, ça c'est bien. Là, c'est une initiative et je suis sûr que les autres pays devraient pouvoir en profiter, uniquement pour les femmes et les jeunes, et ça marche.
Alors, il y a une chose qui marche aussi. Là, on allait quitter la culture. Je m'en voudrais de ne pas l'évoquer. C'est l'art du cinéma. C'est le cinéma qui, de plus en plus, prend... Les Africains regardent enfin des séries, des téléfilms africains. Qu'est-ce qui fait que, d'un coup, Dakar soit devenu un peu une capitale du cinéma africain, Ami?
Alors, Alain, si vous permettez, j'aimerais parler des femmes aussi un peu. Pour revenir un peu sur cette question. J'aimerais juste dire, en fait, qu'aujourd'hui, en 2020, quand on parle de la femme africaine, dans certains pays, on va dire européens, on parle de la femme comme le facteur aggravant de l'évolution démographique. en Afrique. On voit surtout...
Le
nombre d'enfants qu'elles font. et parfois, il arrive dans des rencontres internationales de voir une autorité dénoncer cela et s'attaquer à ces femmes. Je trouve ça vraiment...
Je suppose que vous pensez au président
injuste.
Macron.
Il n'y a pas que le président Macron, il y a eu aussi le président Sarkozy. Mais je trouve que c'est même pas... les indexer, mais leur dire qu'il y a quand même une prise de conscience importante et urgente à avoir en 2020 quand on parle de la femme africaine. La femme africaine, c'est quand même celle qui a permis, pendant des décennies, de maintenir une certaine stabilité. Parce qu'il faut connaître la culture, la tradition noire, la tradition africaine, sénégalaise en l'occurrence, pour comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui se battent dans nos pays se battent pour honorer leur maman. Et ces femmes, elles sont peut-être dans les rizières, elles sont
dans les campagnes,
elles sont dans le milieu rural, mais elles se battent sans relâche pour que leurs enfants aillent à l'éducation. Elles subissent certaines discriminations, c'est vrai, mais elles n'acceptent pas la fatalité. Et c'est important de valoriser davantage la femme rurale dans le débat international. Quand on parle de la femme africaine, qu'on ne pense pas simplement fécondité. Aujourd'hui, effectivement, mais est-ce que c'est qu'en Afrique qu'il y a ce problème ? Aujourd'hui, les pays occidentaux sont en train de tendre la main à cette jeunesse pour qu'elle vienne combler là où il n'y a pratiquement plus personne pour prendre la relève. Parce que justement, cette évolution démographique, quelque part, arrange le monde. Voyez,
ça permet un certain équilibre.
Un autre regard sur la femme africaine et dire très rapidement, parce que je sais que le temps passe, dire qu'aujourd'hui, il faut accompagner les jeunes filles. Que toute la politique sociale, la politique d'aide extérieure doit davantage investir dans l'éducation des filles. Parce qu'il y a encore un déficit qui est là et qui fait qu'on ne peut pas parler de développement si la moitié de la population n'est pas bien formée.
Il faut prendre en compte la jeune fille.
Il faut prendre en compte la jeune fille et il faut surtout continuer dans l'entreprise à promouvoir le leadership féminin, qu'au niveau des positions d'entrée qu'il y ait plus de femmes pour que justement au niveau des positions de leadership on puisse se retrouver avec plus de femmes. Je pense que le leadership féminin est indispensable à toute quête d'émergence.
On consacrera une émission du débat africain au leadership féminin, c'est promis. Mais je ne vais pas terminer, même s'il ne reste que quelques secondes, pour dire, vous regardez les feuilletons, les téléfilms sénégalais. Alors en un mot, Khady, qu'est-ce qui fait que d'un coup comme ça, on est arrêté avec les telenovelas américains ou latino pour regarder essentiellement l'Afrique?
Ouais, je pense que ce sont les sujets traités, mais ce sont des sujets qui nous touchent, ce sont des sujets vraiment qui
sont très proches,
voilà, d'identification, qui fait qu'aujourd'hui, dans toutes les capitales africaines, les personnes suivent.
Mais est-ce qu'il y a une volonté politique dans ce sens, Didier Awadi, une volonté de financer ces personnes qui font ces films aujourd'hui?
Oui, au Sénégal, nous avons le FOPICA, le Fonds pour le cinéma, c'est 2 milliards. Et je pense que ça va continuer de grimper chaque fois qu'on a eu une victoire.
Le milliard, c'est pas grand-chose. Hein.
C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien. Je veux dire, quand c'est bien, on le dit. Donc c'est déjà bien. Et aujourd'hui, on a remarqué quoi? Les télés étrangères venaient ici pour prendre le contenu local. Le Sénégalais, l'Africain veut se voir dans sa télé. On ne va plus consommer ce qui vient d'ailleurs facilement. Tu ne fourres pas du Transtel, Non, on va produire notre image et on va vendre notre contenu local.
Se voir tel que nous sommes en réalité.
Se voir,
enfin, raconter notre histoire.
C'est à nous de modeler. Personne ne pourra modeler notre image à notre place.
Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce débat spécial 60 ans d'indépendance du Sénégal. En espérant que lorsque nous reviendrons avec nos cannes dans 6 décennies, les femmes auront pris le pouvoir pour corriger ou réaliser ce qui n'a pas pu être fait jusque-là. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous dans 2 jours à Bamako pour les 60 ans d'indépendance du Mali. Nous y serons malgré les sanctions de la CEDEAO et la mort de l'ancien président Moussa Traoré. Rassurez-vous, le pays vit et n'est pas plus dangereux qu'il y a quelques semaines, quoi qu'en disent certains observateurs et médias. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.